Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une capacité délirante, celle qui permet d'identifier une note sans aucune référence extérieure, quasiment comme un super pouvoir, on va pas se mentir, j'ai nommé l'oreille absolue. Alors c'est sûr, ce don, il intrigue depuis toujours, hein, les amateurs de musique et même aussi les scientifiques, mais au-delà des mythes et des spéculations, l'oreille absolue existe vraiment, et tout un tas de recherches approfondies ont été menées pour comprendre justement les mécanismes sous-jacents à cette aptitude très rare. Je vous explique. Déjà, première question, est-ce que celui ou celle qui a l'oreille absolue peut associer n'importe quel son à une note? Genre, même le bruit d'une sonnette par exemple, le bip d'une touche de clavier ou encore celui du micro-ondes. Eh bien oui, en général, l'oreille absolue c'est la capacité à identifier chaque hauteur de son sans aucune autre note repère. Par exemple, les heureux gagnants savent que la sonnerie d'un téléphone fixe c'est un « la » ou que la sirène des pompiers c'est un « si ». C'est fou quand même, hein, ils ont pas du tout la même perception. Pour certains, l'oreille absolue c'est un don inné. Pour d'autres, on peut l'acquérir à force de cours de musique intensifs, et en réalité, des études scientifiques ont révélé que certaines variations dans les gènes peuvent contribuer à cette capacité, mais que l'influence de l'environnement musical dans lequel on est baigné est aussi hyper important pour développer ce don. Par exemple, une étude de l'Université de Californie démontre que l'exposition précoce à une variété de notes pendant l'enfance favorise le développement de l'oreille absolue. Et donc que, grandir dans un environnement mélomane et apprendre hyper tôt la musique favorise largement le développement de cette capacité d'écoute hors norme. Une autre enquête du département de psychologie de l'Université de Chicago décrète qu'environ une personne sur 10 000 possède l'oreille absolue. Mais cette fréquence varie vachement en fonction des cultures. Concrètement, le don est plus fréquent chez les musiciens formés dans des traditions musicales asiatiques où la musique est souvent basée sur des hauteurs de ton spécifiques. Et d'ailleurs, d'après une autre recherche, là de l'université de Colombie-Britannique cette fois, il peut y avoir une corrélation entre la langue maternelle et la probabilité de développer l'oreille absolue. Par exemple, ceux qui parlent des langues tonales, comme le mandarin, ont montré une prédisposition plus forte à ce don. C'est aussi le cas pour le thaï ou le vietnamien. En fait, c'est parce que dans la langue natale, la hauteur des sons fait partie intégrante de la prononciation. En gros, pour respecter le sens d'un mot, il faut respecter la hauteur de sa voyelle. En mandarin, par exemple, la syllabe « ma » peut être prononcée de quatre manières. Et en fonction, ça veut dire « cheval »,« insulte »,« chanvre » ou même « maman ». Donc mieux vaut être ultra précis dans son intonation, du coup. Des musiciens célèbres qui ont l'oreille absolue, il y en a quand même eu pas mal, hein. Le plus connu, évidemment, c'est notre ami Wolfgang Amadeus Mozart. Depuis tout petit, il reproduit des morceaux de musique super complexes après une seule écoute seulement. Et puis à 14 ans, cette histoire est dingue, mais en 1770, il voyage avec son père en Europe et il assiste à une représentation du Miserere d'Allegri, dont d'ailleurs le Vatican à l'époque cachait les partitions pour que personne ne puisse jouer en dehors des murs saints. Et le petit Mozart, il a assisté justement à cette présentation et le soir, il a retranscrit dans sa chambre tout seul la partition de mémoire, sachant que vraiment que c'était une œuvre pour deux chœurs et neuf voix. D'ailleurs, son don exceptionnel a contribué à la perception romantique de l'oreille absolue, selon laquelle il s'agit uniquement d'un talent inné. Il y a aussi Ludwig van Beethoven. Alors ok, le concernant, son oreille absolue n'a pas été développée au même âge que Mozart, mais quand même, il a une sensibilité juste exceptionnelle aux hauteurs de son. Et même après avoir perdu l'ouïe à la fin de sa vie, il a continué à composer des œuvres remarquables, c'est dire. Plus proche de nous, il y a aussi la rockstar géniale Jimi Hendrix. Grâce à son oreille absolue, lui, il pouvait syntoniser sa guitare d'une manière pas du tout conventionnelle et donc créer des accords qui étaient très novateurs. En plus, il faut savoir qu'il a eu une guitare seulement dès l'âge de 15 ans dans les mains et qu'il a tout appris en étant autodidacte, en justement y consacrant beaucoup de temps libre. Mais attention, tous les musiciens ne possèdent pas du tout absolument l'oreille absolue. Ce dont un musicien a besoin, en fait, c'est de l'oreille relative, c'est-à-dire déjà la capacité à identifier une note par rapport à une autre note donnée dans un contexte harmonique. Je reconnais le ré au piano si j'ai entendu un do avant. Ça permet à l'instrumentiste de s'accorder avec les autres membres de l'orchestre ou au chanteur d'adapter sa voix. Et cette oreille relative, on la développe pendant les cours de solfège surtout, pour ceux qui suivent un cursus classique. Elle se travaille, elle se perfectionne et il faut du temps. Mais passons de cette oreille relative à notre dada depuis le début de ce podcast, l'oreille absolue. Des études d'imagerie cérébrale menées par l'université de Georgetown ont examiné les différences d'activation entre ceux qui ont l'oreille absolue et ceux qui ne l'ont pas. Et les résultats disent qu'il y aurait des variations dans la structure et la fonction cérébrale associées à cette compétence. En gros, ce serait une histoire de plasticité cérébrale. Et l'entraînement musical intensif, il peut influencer justement ce phénomène. Donc même adulte, si on suit une formation spécifique, on peut développer des capacités presque semblables à celles de l'oreille absolue. C'est un peu comme la perception des couleurs en fait. C'est notre petite tête qui identifie et interprète l'information envoyée par nos yeux et qui nous fait dire que le ciel est bleu. Bah pour les hauteurs de son, c'est pareil. Elles sont perçues par nos oreilles mais traitées par notre cerveau. Et donc celui ou celle qui a l'oreille absolue, cette information, il la traite en mode automatique. Pour quelqu'un qui a l'oreille absolue, en fait, la musique c'est comme un second langage. Donc de la même manière qu'il comprend immédiatement les mots qu'il connaît, bah il nomme naturellement chaque note de musique. Mais ce qui fait débat dans cette histoire, c'est de savoir si cette oreille absolue est innée ou acquise. Et vous l'avez compris, pour certains, l'oreille absolue s'acquiert très tôt, voire très très tôt. Mais on n'est pas forcément avec, hein. C'est quand le bébé apprend à associer les mots au son, donc à peu près vers les 3 ans depuis la naissance, qu'il peut se forger vraiment cette oreille de pro. Pour d'autres, c'est la génétique qui prime. En gros, ceux qui possèdent l'oreille absolue auraient un gène commun impliqué dans le développement cérébral de l'enfant. Et puis il y a aussi ceux qui ne préfèrent pas trancher et qui considèrent que l'oreille absolue c'est un savant mélange d'inné et d'acquis. D'ailleurs, des études sur des jumeaux identiques et non identiques ont fourni des indices, parce que les résultats suggèrent qu'il y a bien une composante génétique, mais que l'influence de l'environnement reste cruciale pour développer ce don. Donc oui, deux jumeaux peuvent être prédisposés tous les deux pour avoir l'oreille absolue sans la développer forcément l'un et l'autre. Par exemple, celui qui a reçu une éducation musicale plus musclée aura peut-être plus de chances de la développer. Donc si on considère que l'oreille absolue est innée, génétique, alors on peut facilement supposer que son gène puisse se transmettre de génération en génération. Et ça a été le cas, hein, par exemple chez la famille Bach, où il semble que plusieurs membres de la famille possèdent maintenant l'oreille absolue. Mais si on considère que l'oreille absolue est un acquis, alors on peut laisser une chance aux enfants de développer cette faculté. Après attention, hein, il faut pas idéaliser non plus. L'oreille absolue peut aussi poser quelques problèmes. Par exemple, ceux qui l'ont sont plus sensibles aux variations de hauteur de ton, ce qui peut rendre une musique très légèrement désaccordée inécoutable pour eux. Et même plus que ça, hein, chaque son, un verre qui tombe, un crissement de pneu, bref, n'importe quoi s'illustre dans la tête par une note en image. Ils peuvent deviner les partitions à l'avance, les jouer dans leur tête, et ça, c'est compliqué pour eux d'écouter certaines compositions contemporaines qui sont un peu trop bric-à-brac, parce que leurs oreilles, elles sont hyper sensibles. Et puis un autre truc aussi assez marrant, c'est que comme la capacité intellectuelle, celle de reconnaître des notes peut varier selon l'âge ou le moment de la journée. Une personne par exemple qui a l'oreille absolue ne reconnaîtra pas forcément les notes aussi facilement à la fin d'une très grosse journée de travail que le matin, lorsqu'elle vient de se lever et qu'elle est fraîche et en forme. En tout cas, ce qui est intéressant avec l'oreille absolue, c'est que les recherches sur la plasticité cérébrale qui l'accompagne ouvrent des pistes un petit peu dans le domaine de la rééducation auditive. En gros, comprendre comment le cerveau peut être modifié par l'entraînement musical peut aider à traiter certains troubles de l'ouïe. Il y a une autre recherche aussi qui explore le lien potentiel entre l'oreille absolue et les troubles du spectre de l'autisme, alors là c'est très intéressant. Certaines personnes atteintes de TSA ont des capacités auditives exceptionnelles, y compris une sensibilité hyper forte aux fréquences, ce qui pourrait être lié du coup à des mécanismes similaires à ceux de l'oreille absolue. On dit même qu'une personne sur 20 ayant l'oreille absolue est autiste. Et l'une des explications à ça, c'est peut-être que ces personnes ont un excès de neurones dans la zone préfrontale. Et cet excès de neurones, on le retrouve au même endroit que ceux qui ont l'oreille absolue. Donc il y a des points communs, et d'ailleurs ces études ne sont pas terminées, je pense que pendant les prochaines années, on va en apprendre pas mal. Bref, l'oreille absolue, c'est un domaine de recherche fascinant qui combine ses aspects génétiques, culturels et même neuroscientifiques. C'est un phénomène complexe et qui mérite encore quelques recherches, mais je pense qu'on va y venir pendant les prochaines années, et qu'on a encore de très belles années devant nous, on va découvrir encore beaucoup de choses. Après, c'est surtout une aptitude musicale exceptionnelle qui continue à fasciner énormément de monde. J'en suis le premier concerné, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques personnes autour de moi qui avaient l'oreille absolue, et c'est vraiment bluffant. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était un vrai plaisir d'être avec vous comme à chaque fois. Cet épisode a été écrit par Daphné Breitenbach, je suis Louis et je vous dis à très vite.